se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Fabien Bouglet. Vous êtes expert en politique énergétique. Vous avez notamment écrit « Nucléaire, les vérités cachées » aux éditions du Rocher. Et depuis deux jours, le gouvernement nous prépare aux coupures d'électricité au mois de janvier. On appelle ça des délestages, hein, tout un scénario avec des zones précises, des heures précises. Si j'ai bien compris, on nous avertira trois jours avant avec un message. Si vous faites des efforts maintenant, vous pouvez encore éviter la coupure demain ou après-demain. C'est ce qu'on va nous dire au mois de janvier.
Tout à fait, parce qu'en fait, ces coupures d'électricité vont dépendre de la météo, figurez-vous, puisque depuis quelques années, on a tout mis en œuvre pour dépendre des conditions climatiques. Pourquoi ? Parce que nous avons des pics de consommation annuels entre janvier et mars, le moment où, lorsqu'il y a une baisse des températures, il y a une forte demande d'électricité et on a des pics de consommation le matin entre 8h et 10h et le soir entre 18h et 20h. Donc, tout cumulé, ça fait que les pics de consommation les plus forts dans l'année sont au premier trimestre de l'année, c'est-à-dire en premier trimestre 2023.
Mais alors, trois jours avant, on nous dira « Attention, là, ça risque de couper à tel endroit, oui, à tel moment ». À ce moment-là, on nous dira « Attention, vous pouvez encore faire bouger les choses, c'est le moment de faire un effort ». Quel sera l'effort le plus efficace? Là, si je suis chez moi, qu'est-ce que je fais? Je
vais calmer
les cibles. Qu'est-ce qui consomme le plus à la maison?
C'est le chauffe-eau, c'est tous les outils qui vont énormément consommer d'électricité, et puis le chauffage électrique. Donc effectivement, c'est un vrai problème parce que on va se retrouver avec des coupures de chauffage électrique au moment où il va faire très froid. Donc je rappelle, c'est des blocs de 100 mégawatts, c'est-à-dire on va avoir des blocs de 100 mégawatts qui représentent à peu près 100 000 consommateurs. D'accord. Qui vont être alternés à hauteur de 2 heures. Hein, par zone. Pourquoi 2 heures? Parce que c'est la période où on peut maintenir la chaîne du froid et conserver les aliments, par exemple, qui sont dans les congélateurs, tout
d'accord,
simplement.
Et là, ce sera des efforts très ciblés dans le temps. On nous préviendra 3 jours avant, mais ça sert à rien de faire des efforts aujourd'hui. Il faut faire des efforts de sobriété, etc. Mais si dès aujourd'hui, je me mets à décaler mes heures de lessive, à baisser mon chauffage, ça n'aura aucun impact sur ce qui va se passer.
Non, parce que là, il y a une différence entre le gaz et l'électricité. L'électricité, c'est un flux d'électrons. C'est un mouvement, des électrons en mouvement. Ça ne se conserve pas. À la différence du gaz. Par contre, faire des efforts sur le gaz, oui, là, c'est une réalité puisqu'on a fait 25% de réserves de gaz. On peut faire des réserves à hauteur de 25%. Donc, on a 100% de nos réserves qui sont remplies. Donc, moins on consomme de gaz, plus on va pouvoir avoir des économies de gaz. Par contre, l'électricité, c'est vraiment un flux en mouvement et c'est pour ça qu'il nous faut des unités de production d'électricité. Et comme on a 20 réacteurs nucléaires à l'arrêt, eh ben effectivement, la consommation est plus forte que la capacité de production d'électricité.
Alors, on va y venir à ces réacteurs à l'arrêt, mais d'abord, cette stratégie des délestages ciblés, on nous prévient là déjà plus d'un mois à l'avance de ce qui va se passer, des scénarios en tout cas qu'on met sur la table. C'est la moins pire des solutions, c'est ce qui permet d'éviter le blackout subi.
Oui, parce qu'il faut comprendre que le blackout peut avoir des conséquences très graves sur notre système électrique. Hein. On peut avoir des destructions de système électrique, donc c'est pour éviter. C'est, je dirais, la moins bonne solution, mais c'est un mal pour un bien. Mmh. C'est-à-dire que c'est préserver notre système global d'électricité, nos réseaux, nos systèmes d'électricité, de sécurité électrique. Donc, on fait en sorte de baisser la consommation de manière alternée, et donc on demande une participation à nos concitoyens, mais bon, c'est un mal pour un bien, mais c'est un mal quand même, et c'est surtout grave qu'on en soit arrivé là, alors qu'on était le pays qui exportait de l'électricité. On était un des pays dans le monde les plus producteurs d'électricité et les plus exportateurs. En un an, nous sommes passés de pays major dans le monde sur la question à pays du tiers-monde. Bah, c'est quand même c'est très très grave.
Alors comment on en est arrivé là, Fabien? Parce que moi, depuis que je suis né, j'ai jamais connu. On a regardé les archives cette nuit. Il y a eu un blackout en 78.
Oui.
Mais bon, moi j'étais pas né. Depuis que je suis né, j'ai jamais entendu parler comme ça de délestage ciblé. Ben non, on va vivre cet hiver, c'est assez inédit.
Ben c'est inédit parce que il faut comprendre. Vous parliez du délestage de 78. On est en 74 au moment du choc pétrolier et en 4 ans après, on n'a pas encore développé nos réacteurs nucléaires. On a le plan Messmer, donc qui est le premier ministre de l'époque en 74. Il développe 58 réacteurs nucléaires et pendant 40 40 ans, on a eu une prospérité énergétique.
On se posait pas la question tous les hivers.
On s'est jamais, je l'ai écrit dans mon livre en disant, mais on s'est jamais posé la question. On était, entre guillemets, des enfants gâtés dans le monde pour notre production électrique. On ne se posait pas. C'était quelque chose de, comme l'eau qui circule, comme l'air qu'on respire. Le problème, c'est que, depuis 20 ans, et vraiment la décision, là, je dirais, la première étape de ce choc, c'est la fermeture de Superphénix, à l'initiative de Corinne Lepage, avec qui j'ai débattu hier, qui était à l'époque, donc avocate de la ville de Genève, puis ministre de l'Environnement.
Superphénix, c'était pour le traitement des déchets nucléaires.
Alors, ça produisait de l'électricité par les réacteurs à neutrons rapides et ça utilisait les déchets nucléaires des anciennes centrales nucléaires. On avait 30 ans d'avance. Aujourd'hui, Bill Gates est en train de développer cette technologie aux États-Unis. Acte 2, François Hollande, il demande à son bras droit, M. Piacheschi, qui est aujourd'hui l'actuel président de RTE qui gère la crise. Donc c'est... Et il lui dit, il faut baisser la part du nucléaire. Loi de baisse du nucléaire, 50%. Et avec François Brotte, loi de développement des renouvelables. Ces deux acteurs clés, M. Piacheschi et M. Brotte, sont les acteurs clés puisqu'ils ont contribué par la loi à baisser la part du nucléaire.
C'est ce qu'on appelle le mix énergétique, misé sur des énergies renouvelables. Mais
voilà.
Oui, mais là, c'est pas les réacteurs, on les a, les réacteurs nucléaires. Le problème, c'est qu'il y en a quasiment la moitié qui sont à l'arrêt aujourd'hui.
Tout à fait, parce qu'en fait, par cette politique en 2012 de baisse de la part du nucléaire, on a contribué à ne pas bichonner nos réacteurs nucléaires. On a, je vous rappelle qu'à l'époque, on voulait fermer 25 réacteurs nucléaires. Donc, évidemment, les présidents d'EDF, on leur a dit, bah, vous allez fermer, vous allez ne plus embaucher et vous allez fermer les centrales nucléaires. Et puis acte 3, Madame Borne acte la fin de Fessenheim, donc fermeture de Fessenheim, avec Emmanuel Macron qui également arrête le projet Astrid, projet qui était la recontinuation de Superphénix, c'est-à-dire la mise en place de réacteurs à neutrons rapides. Donc 20 ans de politique de déstabilisation du nucléaire français.
On n'a pas assez investi dans le nucléaire. Aujourd'hui, on a 56 réacteurs, mais seuls 33 en fonctionnement ce matin. On peut espérer, nous dit-on, la remise en service d'une dizaine de réacteurs d'ici le mois de janvier. C'est ce qui permettrait d'éviter ces fameuses coupures.
Je ne suis pas certain que si on a 10 réacteurs à l'arrêt, c'est-à-dire, donc là, on aurait 10 réacteurs qui fonctionnent, plus encore 10 réacteurs à l'arrêt, je ne suis pas sûr qu'on n'aura pas de coupure d'électricité. Moi, je le prédis depuis des mois, je l'avais écrit dans mon livre sur le nucléaire. Le problème, c'est que c'est un problème de long terme et on se retrouve un problème de court terme. Alors, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, c'est un peu les pompiers pyromanes, quand on voit le patron de RTE, M. Piacheschi, venir dans les médias et dire « Surtout arrêtez de consommer, utilisez EcoWatt ». Vous voyez, c'est ça, moi, que je trouve grave. C'est-à-dire qu'on a tous les acteurs qui ont contribué à la destruction de notre système énergétique qui aujourd'hui viennent se retrousser les manches en disant maintenant il va falloir que vous ne consommiez plus.
J'ai une dernière question là, on parle beaucoup des réacteurs, on croise les doigts si j'ai bien compris pour que certains reprennent du service d'ici janvier. Est-ce qu'on a d'autres leviers? On a vu qu'on a relancé la centrale à charbon de Saint-Avold en début de semaine. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives d'ici là? Est-ce qu'on pourrait par exemple importer de l'électricité si on en prend?
Le problème de l'importation c'est que au moment où il fait froid partout en Europe. Donc on est en train actuellement d'importer de l'électricité au charbon. Et quand j'entends Madame Agnès Pannier-Runacher nous dire on va développer les renouvelables et les éoliennes, mais les éoliennes aujourd'hui ne représentent que 1,6% de notre mix énergétique global. Et si je prends les éoliennes de Saint-Nazaire, qui les 80 éoliennes sur 80 km², elles vont produire simplement 8% de la centrale nucléaire de Bugey. C'est-à-dire qu'il faudrait installer 1000 éoliennes sur 1000 km² en mer pour équivaloir la seule centrale nucléaire de Bugey. Je ne crois pas que ce soit avec les éoliennes, Madame Pannier-Runacher, qu'on va régler notre crise énergétique. Je pense que vous êtes dans la mauvaise voie. Corrigez, ne soyez pas la mauvaise élève de l'Union européenne.
Votre message est passé. Merci Fabien Bouglé d'être venu ce matin en direct sur RMC.
Merci.
Et RMC Story, expert en politique énergétique. Et évidemment, on va continuer à suivre de très près. Pour l'instant, on a les scénarios sur la table. On verra ce qui se passe. Ça dépend beaucoup, vous l'avez bien dit, de la météo, des températures. Au mois de janvier, 7h49 sur RMC.